Évangile de Marc, chapitre 9, versets 1 à 13. Et il ajouta, « Vraiment, je vous le déclare, quelques-uns de ceux qui sont ici présents ne mourront pas avant d'avoir vu le règne de Dieu venir avec puissance. » 6 jours plus tard, Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et Jean et les emmena sur une haute montagne à l'écart, eux seuls. Là, il fut transfiguré devant eux. Ses vêtements devinrent éblouissants et si parfaitement blancs que personne sur la terre ne peut produire une telle blancheur. Alors, Élie leur apparut avec Moïse. Ils parlaient tous deux avec Jésus. Pierre s'adressa à Jésus et lui dit, « Maître, il est bon que nous soyons ici. Nous allons dresser 3 tentes, une pour toi, une pour Moïse, une pour Élie. » En fait, ils ne savaient pas ce qu'ils disaient, car ils étaient tous les trois remplis de peur. Une nuée se forma alors et les enveloppa. Une voix en sortit. « Celui-ci est mon fils bien-aimé. Écoutez-le. » Aussitôt, les disciples regardèrent autour d'eux et ils ne virent plus personne, sinon Jésus, qui était seul avec eux. Pendant qu'ils descendaient de la montagne, il leur ordonna de ne raconter à personne ce qu'ils venaient de voir, jusqu'à ce que le Fils de l'homme ressuscite d'entre les morts. Et ils obéirent à cet ordre, mais discutaient entre eux sur ce que « ressusciter d'entre les morts » voulait dire. Ils lui demandèrent alors, « Pourquoi les spécialistes de la loi disent-ils qu'Élie doit venir en premier lieu ?»« Oui, leur dit-il, Élie vient d'abord pour remettre toutes choses en ordre. Pourquoi l'Écriture annonce-t-elle aussi que le Fils de l'homme souffrira beaucoup et sera traité avec mépris ?» En fait, je vous le déclare, Élie est venu et ils l'ont traité comme ils ont voulu, comme l'Écriture l'a annoncé à ce sujet.
Nous continuons notre série dans l'Évangile de Marc. La dernière fois, Jésus avait annoncé pour la première fois sa mort et ses souffrances à venir. Et c'était la première fois dans l'Évangile de Marc. Et je ne sais pas si vous vous souvenez, si vous étiez là, Jésus avait eu des propos qui étaient durs. Il avait dit, « Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. » Pour partager la gloire à venir de Jésus, il nous faut partager d'abord sa souffrance ici-bas, son rejet, sa mort. Mourir à soi-même, renoncer à nous-mêmes pour pouvoir, après, avoir part à la gloire à venir. Mais bon, c'est vrai que mourir à soi-même, renoncer à soi-même, c'est pas franchement une perspective de vie très encourageante. Et alors, immédiatement après, Jésus encourage ses disciples et il leur dit ces paroles, les premières paroles que nous avons lues ce matin, tout à l'heure. « Quelques-uns de ceux qui sont ici présents ne mourront pas avant d'avoir vu le règne de Dieu venir avec puissance. » Et c'est vrai qu'afin d'encourager ses disciples, Jésus va montrer à 3 d'entre eux, il va en choisir 3, et il va leur montrer le règne de Dieu. Il va leur montrer comment ce règne de Dieu vient avec puissance. Chers amis, c'est ce que nous allons voir nous aussi ce matin, en bénéficiant de ce témoignage des disciples. Nous allons voir venir le règne de Dieu avec puissance, rien de moins que cela. Alors je voudrais vous présenter un homme, vous allez comprendre pourquoi. Vous le reconnaissez? Ok, Thomas Pesquet. Quand on pense à Thomas Pesquet, on pense tout de suite aux 6 mois qu'il a passé dans la Station Spatiale Internationale, dans l'espace. Ce à quoi on pense moins, c'est les 7 années de préparation qu'il a eues avant d'y aller. Et je ne sais pas si vous avez lu son témoignage, mais ce n'était pas franchement 7 années folichonne. C'était une implication à 100%. C'était 7 années de privation. C'était des tests physiologiques, des tests physiques, des tests médicaux, certains que j'aurais franchement pas voulu vivre. C'était cette année où il s'est tapé les manuels de tous les engins, de tous les instruments de mesure qui sont dans la Station Spatiale Internationale. Moi qui ai du mal à lire le manuel de ma télé que j'ai acheté, non ? Mais lui, il a appris par cœur la totalité des manuels d'utilisation de tous les engins qui sont dans la Station Spatiale. Je ne sais pas si j'aurais voulu les vivre ces 7 ans. Et en tout cas, lui, ce qu'il dit, c'est fort. Il dit qu'il raconte qu'il n'a pas eu du tout besoin de se forcer durant ces 7 années de privation. Pourquoi ? Pourquoi il n'a pas eu besoin de se forcer ? Parce qu'il avait cette gloire à venir, 6 mois dans l'espace. Vous imaginez ? Et là, c'est là que c'est pareil pour nous. Pourquoi est-ce que Jésus nous montre sa gloire ? Pourquoi est-ce qu'il a choisi 3 apôtres, 3 disciples, 3 amis pour leur montrer sa gloire ? Parce qu'en voyant sa gloire, ils allaient pouvoir tenir le coup dans leurs propres difficultés de vie. Ils allaient pouvoir renoncer à eux-mêmes, renoncer à leurs fautes, à leurs péchés, pour vivre pour Dieu. Parce qu'en voyant la gloire de Jésus, ils verraient leur propre gloire à venir, que Jésus partagera avec ses amis. C'est pareil pour nous. Pour vivre une vie qui honore Dieu, eh bien, nous trouverons les forces dans cette gloire que Jésus nous donne à voir ce matin. Quelle est cette gloire donc à laquelle Pierre, Jacques et Jean assistent ? Eh bien, c'est la gloire de Jésus, le nouveau Moïse. Alors, quelques indices. Qu'est-ce qui nous permet de dire que Jésus est le nouveau Moïse, ici, dans ce passage ? Eh bien, vous allez voir, ils sont assez nombreux. 6 jours d'attente, 3 accompagnateurs montent sur une montagne. Il y a un homme qui rayonne, et puis il y a une nuée qui envahit tout, et il y a Dieu qui parle depuis cette nuée. Et ça, tout ça, on le retrouve ailleurs. Dans l'Ancien Testament. On le retrouve dans l'histoire de Moïse, dans ce qui s'est passé sur le mont Sinaï. Exactement ces mêmes termes. Après avoir libéré Israël d'Égypte, Moïse a conduit le peuple de Dieu au pied du mont Sinaï et ils ont vécu ces éléments-là. Moïse est monté sur la montagne avec 3 amis. Les 3 amis, ce n'était pas Pierre, Jacques et Jean, c'était Aaron, Nadab et Abihu à l'époque. Et puis ensuite, Moïse, il a continué tout seul avec son assistant, Josué. La nuée les a recouverts et il est resté dans cette nuée pendant 6 jours avant de monter encore plus haut et de rester 40 jours et 40 nuits avec Dieu sur la montagne. Et quand il est redescendu, vous vous en souvenez, qu'est-ce qui se passait ? Son visage resplendissait de la gloire de Dieu, nous dit le texte de l'Exode, le récit de l'Exode. Vous trouvez ça à partir du chapitre 24 jusqu'au chapitre 34. Mais la quasi-totalité des éléments sont déjà au chapitre 24. Ça, c'est la fondation, rien de moins que la fondation d'Israël comme peuple de Dieu. Israël qui fait alliance avec Dieu par Moïse, le médiateur. Et ces éléments-là qu'on retrouve dans la plume de Marc, ça ne peut pas être un hasard. Ça ne peut pas être un hasard. Il veut nous montrer que Jésus est bien le nouveau Moïse. D'ailleurs, un autre indice, Moïse lui-même nous avait préparé à un nouveau Moïse. Regardez l'un des discours de Moïse dans le Deutéronome, chapitre 18. « L'Éternel, votre Dieu, vous suscitera un prophète comme moi, issu de votre peuple, l'un de vos compatriotes. Écoutez-le. » Et là, qu'est-ce qu'on lit sous la plume de Marc, dans le passage que nous venons de lire ? « Celui-ci est mon fils bien-aimé. Écoutez-le. » Le même « écoutez-le » pour pointer vers ces paroles de Moïse qui annonce un prophète comme lui. Jésus est le prophète qui est comme Moïse. Il est le nouveau Moïse. Et puis, arrivé au chapitre 9 de l'évangile de Marc, on avait déjà été préparé à Jésus comme un nouveau Moïse. Je ne sais pas si vous vous souvenez, Moïse, qu'est-ce qu'il avait fait dans le désert quand son peuple avait faim ? Il avait demandé à Dieu du pain. Et Dieu avait donné la manne, ce pain, cette espèce de farine qui tombait du ciel tous les jours et que le peuple ramassait pour se faire confectionner des pains. Et qu'est-ce que Jésus a fait ? Il a multiplié les pains et lui aussi a donné du pain à son peuple qui avait faim. Moïse, qu'est-ce qu'il a fait ? Il a fait traverser le peuple, il a fait traverser la mer à son peuple. Eh bien, dans l'évangile de Marc, quelques chapitres avant, nous lisons aussi que Jésus a fait traverser la mer, le lac de Galilée à ses disciples lors d'une tempête. Il a apaisé la tempête pour que ses disciples puissent passer la mer. Tous ces petits indices qui nous préparaient déjà à comprendre que Jésus est bien le nouveau Moïse. Le nouveau prophète Moïse. Et sur cette montagne, donc, proche de Jérusalem, avec Jésus qui resplendit, on a de la peine à imaginer à quel point il resplendit. J'ai tout de suite pensé à la blague de Coluche qui nous parlait de cette lessive qui lavait plus blanc que blanc. On a du mal à savoir ce que ça veut dire, mais Jésus resplendissait à ce point-là. Avec ce Jésus qui resplendit, eh ben, Dieu nous renvoie au mont Sinaï, à cet épisode de l'Exode, lorsque Dieu s'est révélé pour la première fois. L'une des raisons pour lesquelles Élie et Moïse sont d'ailleurs présents ensemble, c'est que c'est sur le mont Sinaï qu'ils ont chacun, à leur moment, rencontré Dieu. C'est la rencontre avec Dieu. C'est sur cette montagne que Dieu fait alliance avec son peuple. Et là, il vient lui-même, Jésus, Dieu fait homme, rencontrer son peuple. Avec Jésus, Dieu fait alliance à nouveau. Et cette alliance, elle est supérieure en tout point à celle conclue avec Moïse. Elle est supérieure parce qu'à travers cette alliance, cette nouvelle alliance avec Jésus, Dieu nous offre le pardon définitif de nos fautes. Ce pardon qu'on a célébré ensemble en prenant ce petit bout de pain et ce gobelet de jus de raisin. Mémoire de la mort de Jésus-Christ à notre place. Mémoire de la paix retrouvée avec Dieu. Moïse et Élie rencontrent avec Dieu sur cette montagne. Moïse qui conclut une alliance et Jésus qui conclut cette nouvelle alliance supérieure encore. On s'en rend d'autant plus compte que Jésus est supérieur à Moïse pour deux raisons. Ce n'est pas uniquement son visage, c'était le visage de Moïse qui resplendissait. Et là, c'est le corps entier de Jésus qui resplendit. Et deuxième indice qui nous montre la supériorité de Jésus, c'est que une fois que la voix de Dieu parle depuis la nuée, Moïse et Élie disparaissent. Comme des seconds rôles, des seconds couteaux qui laissent toute la place à Jésus, l'unique médiateur de cette nouvelle alliance avec Dieu. Nouvelle alliance glorieuse par laquelle nos fautes sont pardonnées. Mais Jésus n'est pas présenté uniquement comme le nouveau Moïse qui va établir une nouvelle alliance. La gloire à laquelle ces trois disciples assistent, c'est aussi, ça sera le deuxième point, c'est la gloire de Jésus comme le nouveau roi David. Quand la voix de Dieu se fait entendre depuis la nuée, il y a ces paroles. « Celui-ci est mon fils bien-aimé. Écoutez-le. » Alors, je ne sais pas à quoi vous pensez. À quoi on pense, nous, chrétiens, quand on lit « Celui-ci est mon fils ». Tout de suite, on pense à la Trinité. Jésus comme fils de Dieu. Dieu le Père, Dieu le Fils, c'est Jésus, et Dieu le Saint-Esprit. Quand on pense à fils, on pense tout de suite à la Trinité. Mais à l'époque, ce n'était pas le cas. Quand un juif entendait ça, « Celui-ci est mon fils bien-aimé », à quoi est-ce qu'il pensait ? Il pensait au psaume 2, parce qu'on retrouve ces paroles dans le psaume 2, où Dieu dit « Tu es mon fils ». Le psaume 2, c'est un psaume dans lequel Dieu établit son roi, justement, le fameux Messie, le roi qu'il a annoncé. Et il lui dit « Tu es mon fils et je te donnerai les nations, la terre entière, les nations en héritage ». Et là encore, comment ne pas être d'une certaine façon abasourdi par cette présentation de Jésus comme le roi venant de Dieu, le roi désigné par Dieu. « Tu es mon fils ». Et regardez la fin du psaume 2, parce que quand il y a une référence aussi évidente à ce psaume, il nous faut regarder tout ce que contient ce psaume. Et regardez le dernier verset avec moi. « Rendez hommage au fils pour éviter qu'il s'irrite et que vous périssiez tous dans la voie que vous suivez. » En un instant, sa colère contre vous peut s'enflammer. Oui, heureux sont tous les hommes qui, en lui, cherchent refuge. Là aussi, je suis resté sans voix face à cette présentation de Jésus comme le nouveau roi David. Il est Jésus, lui, le roi qui gouverne avec gloire et avec puissance, et un roi qui va juger un jour, exactement comme ce verset du psaume 2 nous le rapporte. Il va juger les hommes et heureux celui qui aura trouvé en Jésus son refuge. Il est temps de se soumettre à ce Jésus, à ce roi glorieux qui jugera la terre entière. Jésus n'est pas présenté uniquement comme le nouveau Moïse et le nouveau roi David. Jésus, il se présente lui-même cette fois-ci comme le Fils de l'homme. Une expression un peu énigmatique. Le Fils de l'homme, une expression qui vient du prophète Daniel. Daniel 7, les versets 13 à 14. Sur les nuées du ciel, je vis venir quelqu'un semblable à un fils d'homme. Il s'avança jusqu'au vieillard, âgé de nombreux jours, et on le fit approcher devant lui. On lui donna la souveraineté et la gloire et la royauté, et tous les peuples, toutes les nations, les hommes de toutes les langues lui apportèrent leur hommage. Sa souveraineté est éternelle, elle ne passera jamais. Et quant à son royaume, il ne sera jamais détruit. Ce fils de l'homme, c'est un personnage un peu énigmatique qui annonce la fin des temps, qui annonce le royaume de Dieu. Un royaume qui n'aura jamais de fin. Et Jésus, ici, il s'approprie cette figure de l'Ancien Testament du prophète Daniel. Mais ce n'est pas tout, parce que cette prétention de Jésus à être ce fils de l'homme, elle est confirmée par la présence de Moïse et d'Élie. Parce que, justement, il y a un passage de l'Ancien Testament qui nous présentait Élie et Moïse en même temps. Et c'est la fin de l'Ancien Testament. L'Ancien Testament se termine sur cette vision de Moïse et d'Élie en même temps, qui annonce quoi ? La fin des temps. Regardez ce que nous dit le prophète Malachi, donc qui termine le Nouveau Testament. Rappelez-vous la loi de Moïse, mon serviteur, à qui j'ai prescrit au Sinaï des ordonnances et des lois pour tout le peuple d'Israël. Voici, je vous envoie Élie, le prophète, avant que le jour de l'Éternel arrive, ce jour grand et terrible. On retrouve ici la question de la fin des temps. Le jour de l'Éternel arrive, ce grand jour est terrible. Ça, c'est les attentes des Juifs au sujet de la fin des temps. Ils attendent Moïse et Élie ensemble, au même moment, pour annoncer le début de la fin. Moïse, pourquoi ? Moïse, parce que c'était le bon temps, finalement, le bon temps de la libération d'Égypte. Ils ont vécu dans des tentes, dans le désert, avec Dieu, qui vivait au milieu d'eux. C'est pas pour rien que, même s'il est un peu ridicule, c'est pas pour rien que Pierre dit « on va vous construire trois tentes, une pour Jésus, une pour Élie, une pour Moïse. » Parce que cet épisode lui rappelle fortement ce bon temps de la vie d'Israël dans le désert. Et Élie qui annonce cette fin des temps. D'ailleurs, dans le chapitre précédent, les Juifs ne s'y étaient pas trompés. Ils s'étaient posé la question, mais qui est Jésus, qui c'est ? Est-ce que ça ne serait pas Élie, justement, qui doit venir ? Mais Jésus n'est pas ce nouvel Élie. Ce nouvel Élie qui annonce la fin des temps, c'est Jean-Baptiste. On le comprend au verset 13. Jésus qui dit, en fait, Élie est venu. Il est déjà venu. Et ils l'ont traité comme ils ont voulu, comme l'Écriture l'a annoncé à son sujet. Élie, qui annonce la fin des temps étant déjà venu, eh ben, il va se passer quelque chose maintenant avec Jésus. En tout cas, je suis resté là aussi un peu scotché, un peu sans voix face à ce Jésus, fils de l'homme du prophète Daniel, qui annonce la fin des temps. Roi éternel et glorieux. Et enfin, quelle est la gloire à laquelle Pierre, Jacques et Jean assistent ? Eh bien, c'est la gloire du... Et c'est la dernière image de ce passage. C'est la gloire de Jésus comme le serviteur souffrant du prophète Ésaïe. Où est-ce qu'on voit cela ? On le voit au verset 9 et 12. Il est question de souffrir beaucoup, d'être méprisé et de ressusciter des morts. Et ça, ce sont des références explicites à Ésaïe 53. Ce n'est pas un hasard, on retrouve dans un seul et même chapitre exactement les mêmes références. Ce n'est pas un hasard sous la plume de Marc non plus. On retrouve la souffrance du serviteur au verset 7 et 8 d'Ésaïe 53. On retrouve le mépris dont il est l'objet au verset 3. Et on retrouve sa résurrection à venir au verset 10. Et là encore, eh bien, cette annonce des souffrances et cette annonce de la mort, elle est pertinente avec la présence d'Élie et de Moïse. Pourquoi ? Parce que Moïse et Élie, tous les deux, ont souffert pour Dieu.
exactement comme Jésus souffrira. Et tous les deux, on va le revoir, tous les deux, Élie et Moïse, ont eu aussi une mort un peu particulière, tout comme Jésus aura cette mort particulière. Les souffrances de Moïse. Il a conduit pendant 40 ans un peuple rebelle à Dieu dans le désert. Les souffrances d'Élie, il a été poursuivi pour son ministère, il a été poursuivi par le méchant roi et la méchante reine Akab et Jézabel. Il a été poursuivi par eux, il voulait sa mort. Et par rapport à la mort, Moïse, la fin de Moïse nous est rapportée dans le Deutéronome chapitre 34. Mais c'est assez bizarre, on nous dit que personne ne sait où le corps de Moïse est passé et qu'il a disparu. Que c'est Dieu lui-même qui l'a enterré. Une mort un peu particulière pour que le corps disparaisse. Et Élie, qu'est-ce qu'on sait sur Élie ? Eh bien, 2 Rois chapitre 2, il fut enlevé directement au ciel dans un tourbillon de vent. Élie, Moïse, deux souffrances particulières pour Dieu, deux morts particulières pour Dieu, qui annonce Jésus. Souffrance et mort, toutes particulières lui aussi. Et donc on comprend à quel point maintenant la transfiguration, c'est un événement glorieux qui annonce un autre événement encore plus glorieux, la mort et la résurrection de Jésus. Il est mort pour nos péchés. Il est mort pour que nous puissions être pardonnés par Dieu. Il est ressuscité pour que nous soyons déclarés justes. Pour l'éternité, Jésus est connu comme le sauveur de l'humanité. Maltraité, mis à mort, puis ressuscité. Et ça, c'est son titre de gloire, tout comme la transfiguration qui appelle, qui annonce cette gloire encore plus grande. Et pourtant, Jésus recommande le silence à ses disciples. Il leur ordonna de ne raconter à personne ce qu'ils venaient de voir, jusqu'à ce que le Fils de l'homme ressuscite d'entre les morts. C'est trop dur à porter pour eux. Personne n'est capable à ce moment-là de l'histoire de Jésus, personne n'est capable de comprendre pourquoi il doit mourir. Mais ils le comprendront après. Alors oui, il y a de quoi rester un peu aussi ébahi par Jésus, ce serviteur souffrant qu'annonce le prophète Ésaïe, qui va se déposséder de sa propre vie pour nous, à notre bénéfice, pour la reprendre plus tard, parce qu'il ne méritait pas de mourir. Et il vit aujourd'hui. Il est le sauveur de l'humanité, mais il est le Seigneur de gloire, et il gouverne l'univers. En tout cas, quelques mots de conclusion. Vous voyez quelle révélation incroyable les trois amis de Jésus ont eue sur cette montagne. Ils ont vu Jésus rayonnant de sa gloire de nouveau Moïse, de nouveau roi David, de fils de l'homme du prophète Daniel, de serviteurs souffrants du prophète Ésaïe. Tous les prophètes rendent témoignage à Jésus. Et ce jour-là, lors de cette journée-là, il y en avait pas moins de 5 prophètes qui témoignaient de Jésus. Il y avait Élie, Moïse, David, Daniel, Ésaïe, ensemble, pour communiquer quelque chose sur Jésus, pour nous transmettre qui est Jésus. Et donc, je voulais t'encourager ce matin, te dire que s'il y avait au fond de toi ce désir d'apprendre à mieux connaître Jésus, je voulais t'encourager à ne pas te contenter d'un feuillet, par exemple, dans un calendrier chrétien, ou de ne pas te contenter d'un seul verset sur un site internet pris tous les matins, par exemple, ou de ne pas te contenter de ces passages que tu connais déjà dans le Nouveau Testament, un peu ces passages battus et rebattus que tu connais déjà. Pourquoi se contenter de cela ? Alors qu'on a l'Écriture entière, une nuée de prophètes qui nous annonce Jésus-Christ. Lis la vie de Moïse, par exemple, et tu verras Jésus. Lis la vie d'Élie, et tu verras Jésus. Lis la vie du roi David, et tu verras Jésus. Lis les écrits du prophète Daniel, les écrits du prophète Ésaïe, et c'est Jésus que tu auras devant toi. Jésus, sa vie. Et sa gloire, sa mort et sa résurrection à notre place. Et si au fond de toi, il y a ce désir d'expérimenter la puissance de Dieu, on voudrait tous expérimenter la puissance de Dieu. Mais où est-ce qu'on la cherche ? Où est-ce qu'on la cherche ? Est-ce qu'on la cherche dans des expériences mystiques ou est-ce qu'on la cherche là, devant Jésus, au pied de la croix? Parce qu'elle est là, la puissance de Jésus. Elle est là, la gloire de Jésus. Sa mort et sa résurrection. La transfiguration qui annonce tout ça. Par amour pour toi, pour te racheter, Jésus a donné sa vie. Il a payé le prix de nos fautes, il a payé le prix de tes fautes pour te réconcilier à lui. Et aujourd'hui, il est vivant, il est déjà dans la gloire, et lorsqu'il reviendra sur terre, ça sera pour juger l'humanité entière. Et il nous appelle à quitter notre égocentrisme. Il nous appelle à gagner une relation avec lui en quittant cet égocentrisme. Gagner une relation avec lui pour pouvoir participer à son règne. J'ai peur que tant qu'on n'a pas intégré cette vérité, tant qu'on n'a pas senti complètement le pouvoir de Jésus, quelle est sa puissance, j'ai peur qu'on ait du mal à le suivre complètement, à lâcher prise totalement dans notre vie. Ce qui nous manque, ce n'est pas une expérience mystique. Ce qui nous manque, ce n'est pas non plus nos efforts ou avoir un peu plus de sincérité. Ce qui nous manque, bien parfois, c'est juste d'avoir une vision claire de ce que Jésus a fait. Et ayant cette vision claire de ce que Jésus a fait, eh bien, on a envie d'abandonner pour lui notre vie et notre égocentrisme. Exactement pareil que Thomas Pesquet a été capable d'abandonner et de souffrir pendant 7 ans parce qu'il avait cette vision de sa gloire à venir dans l'espace. C'est pareil pour nous. Si on a une vision claire de Jésus, de qui il est, et de sa gloire, et de cette gloire à venir qui nous attend également, alors on sera encouragé dans notre lutte contre nos propres péchés. On sera encouragé à nous tourner vers Jésus, à revenir à lui constamment, parce que c'est en lui que se trouve la puissance, le pardon de nos fautes et la paix avec Dieu. Alors, que cette vision de Jésus, que cette vision de son règne, je prie pour qu'elle soit d'une telle puissance ce matin pour nous, qu'elle arrache nos idoles dans notre cœur et qu'elle nous donne ce désir de vivre pour Jésus, de vivre pour sa gloire. Amen.